Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle semaine de Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie en direct ou en podcast sur l'appli France Inter, mode de vie, santé, consommation, éducation, philo appliquée au quotidien, psychologie. Voici quelques thématiques que nous abordons dans l'émission pour ceux qui nous découvrent pendant les vacances de Noël.
Les oies! C'est bon parce que c'est gras!
Depuis l'avènement de la nouvelle cuisine dans les années 1970 et l'accroissement des préoccupations diététiques, les aliments gras sont longtemps restés l'ennemi public, accusés de nous faire grossir et de boucher nos artères. Mais depuis quelque temps, nous assistons à un retour en grâce des graisses. Nous nous demandons ce matin quels sont les bienfaits du gras. Quels sont les lipides à privilégier dans notre alimentation? Quelles sont les mauvaises graisses à bannir de notre assiette? Et puis pourquoi le beurre, le chocolat, la charcuterie, les fritures ou encore les pâtes à tartiner procurent autant de plaisir gustatif? Nos invités répondront à vos questions au 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez du maître d'armes?
À quel point de vue?
Alimentaire.
J'aime mieux pas parler de ça. Vous vous rendez compte de l'exemple qu'il donne aux jeunes?
Pas bien, non.
Qu'est-ce que c'est que ce style de bouffer des petits machins tout secs et 3 gallons de flotte par jour?
Pas moi, chacun son truc.
Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs. Le gras, c'est la vie.
Un extrait de la série humoristique Kaamelott. Bonjour Laurent Chevalier. Bienvenue, médecin nutritionniste attaché au CHU de Montpellier. Vous avez notamment publié le guide du bon sans toxique et vous êtes l'un des experts éclairés de notre émission. Le gras, c'est la vie?
Oui, mais en fait, il y a du bon et du mauvais gras, c'est ce qu'on va expliquer. En tout cas, il y a des proportions à ne pas dépasser, puis d'autres à favoriser.
Bonjour Erwan Manteour.
Bonjour.
Quelle voix?
Ouais, j'ai une petite voix d'outre-tombe et j'ai un peu plus de 42 fièvres, mais pour vous, je ferai n'importe quoi. Oui.
Merci, vous êtes écrivain, spécialiste en nutrition, préparation physique et en bien-être. Et vous avez notamment publié chez Solar l'alimentation Fit Next, petit manuel de survie alimentaire dans la jungle industrielle. Bonjour Sabrina de Busca.
Et bonjour Ali, bonjour
vous êtes en
à tous.
Ligne, vous êtes en ligne de France Bleu à Toulouse, vous êtes journaliste indépendante spécialisée en santé et en écologie, vous collaborez notamment à France Bleu, vous êtes créatrice du blog Santé, ça se saurait, et vous avez publié Métro, boulot, bonheur pour en finir notamment avec les régimes culpabilisants. Docteur Laurent Chevalier, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les lipides abondamment consommés en ces périodes de ripaille de fin d'année?
Alors, il y a plusieurs catégories de lipides. Il y a ceux qui contiennent beaucoup d'acides gras saturés. Ce sont les lipides qui posent des problèmes. On va le trouver dans la charcuterie, on va le trouver aussi justement dans le foie gras. On va le trouver dans en fait les graisses d'origine animale essentiellement. Mais on peut en trouver aussi dans l'huile de palme, dans des graisses végétales comme l'huile de palme, l'huile de copra. Donc ce sont des graisses dont il faut pas abuser, on expliquera bien pourquoi tout à l'heure. Ensuite, il y a des acides gras qui sont appelés polyinsaturés avec monoinsaturés. Alors c'est un tout petit peu technique, ça correspond à l'huile d'olive et puis les polyinsaturés avec les fameux oméga 3 et oméga 6. Donc ça fait partie de ceux-là qu'on doit consommer. Et notamment des acides gras oméga 3. Et puis il y a le cholestérol, bien entendu, qu'on va trouver dans un certain nombre d'aliments. Mais c'est surtout les acides gras saturés qui posent des problèmes, puisque le cholestérol, lui, a deux origines. Il a une origine endogène, c'est-à-dire qu'on fabrique notre propre cholestérol à partir du foie. Et puis une origine dite exogène par l'alimentation. Mais les acides gras saturés, donc qu'on trouve dans le gras animal, vont stimuler la production du cholestérol endogène. Et c'est pour ça que ça pose problème. Donc, ce sont ces acides gras saturés essentiellement dans la graisse animale aérienne. Alors que les graisses dans la mer sont plutôt des oméga 3.
Alors, l'organisme se procure des lipides par l'alimentation, mais il est également capable de les synthétiser?
Voilà.
À partir du sucre, notamment?
Il est capable de synthétiser un certain nombre de graisses. Alors, justement, du cholestérol et aussi ce qu'on appelle des triglycérides. Il ne faut pas en avoir trop, mais à partir du sucre, effectivement, l'excès de consommation de sucre va favoriser l'apparition de triglycérides, ce qui n'est pas bon non plus pour la santé quand on en a en excès.
Alors, le gras flatte nos papilles. Pourquoi sommes-nous autant attirés par le gras?
Alors, ça, je crois qu'il faut se mettre dans une perspective historique. Et au niveau de la préhistoire, finalement, nos gènes, ils n'ont pas tellement évolué par rapport à la préhistoire. Qu'est-ce qui manquait beaucoup? Eh bien, il manquait le gras. Je veux dire, les animaux, on en avait peu. C'est du gibier, ils couraient. Donc, il y a peu de gras. Et donc, du coup, on est orienté... Et pareil pour le sucre. Et du coup, on est orienté vers ces substances-là. On ne pouvait jamais imaginer qu'on serait en période d'abondance. Autrement dit, on n'a pas un rétro-contrôle. C'est-à-dire que pour beaucoup de situations, dans beaucoup de situations, quand il y a un excès de quelque chose, on a des phénomènes dits de rétro-contrôle. Là, non. Et en fait... Eh bien, on a du gras, on a du sucre, et les industriels ont bien compris ça, et en mettent absolument partout, ça flatte l'essence, et plus vous en prenez, plus vous avez envie d'en prendre. Et donc, c'est ça toute la problématique que l'on a avec cette alimentation industrielle, il y en a absolument partout.
Erwan Montéour, longtemps, les lipides furent désignés comme l'ennemi public à éjecter de notre alimentation. A-t-on eu raison de les diaboliser à ce point, ces lipides ?
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des vagues dogmatiques en ce qui concerne la médecine en général et en particulier la nutrition. Pendant des dizaines d'années, on s'est basé sur un bilan comptable des calories en pensant que ça suffisait à assurer nos fonctions vitales et cognitives. Or, nous avons besoin d'un matériel immunitaire pour pouvoir construire notre corps au jour le jour. Ce que vient de dire le professeur Choualier est très intéressant. Il vient de parler de cette association de sucre, de sel et de gras que les industriels ont dans les années 70 été chercher chez un certain Howard Moskowitz, qui a découvert un point qui s'appelle the bliss point, le point de félicité. Ce point de félicité fait qu'on a un goût de revenez-y. Et lorsque vous allez, par exemple, aller dans n'importe quel supermarché prendre des carottes râpées et vous pensez faire bien le midi, je vais prendre des carottes râpées, je suis sain, et bien vous allez retrouver du sel, du sucre et du gras. Parce qu'en fait, c'est, si on devait reprendre Aldous Huxley, on est dans le meilleur des mondes avec le soma. On a pris le contrôle de nos palais, de nos placards, pour faire de nous des consommateurs, on est bien des homo economicus, qui sont dans la course et qui ne réfléchissent plus. Or, nous avons besoin d'un matériel immunitaire, et ce matériel immunitaire, il se trouve dans d'autres gras. Donc les acides gras essentiels dont il a parlé, les oméga 3, les oméga 6, où il faut respecter une certaine balance entre les deux. Et malheureusement, cette balance, à partir de la fin de la guerre de 45, a complètement été bouleversée, puisqu'on a commencé à industrialiser l'alimentation, à transformer les produits. On a réussi à faire beaucoup d'argent à partir d'oméga 6, qui, rappelons-le, favorise les processus inflammatoires. Et on a complètement négligé les oméga 3. Juste, je vais essayer de faire une petite parenthèse très rapide, très short. Vous avez des petites bonnes femmes à l'intérieur de votre corps qui s'appellent les prostaglandines, qui sont des généraux de votre corps.
Pourquoi des bonnes femmes?
Parce que c'est souvent celles qui sont le plus efficaces. Mais on aurait pu dire des petits bons hommes aussi. Si vous vous coupez là maintenant tout de suite, on va déclencher des processus. Elles vont appeler un processus inflammatoire, une troupe d'élite qui s'appelle les pro-inflammatoires. Ceux-là, en gros, si on devait schématiser, caricaturer, se nourrissent d'oméga 6. Ensuite, ils appellent une deuxième troupe d'élite, les anti-inflammatoires, qui eux se nourrissent d'oméga 3. Sauf que les oméga 3 ont disparu de notre alimentation et on assiste à l'explosion des maladies de civilisation, des maladies inflammatoires.
Docteur Chevalier.
Je suis tout à fait d'accord. Il faut voir que en ce moment, on est en train de réhabiliter, heureusement, de façon tout à fait justifiée, les oméga 3. Les oméga 3 aussi ont un rôle essentiel dans les facteurs justement cognitifs. C'est-à-dire que on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y avait une substance qu'on appelle la brain derived neurotrophic factor. Qui stimule.
En français, ça veut dire quoi?
Non, enfin, le nom est resté anglais.
D'accord.
Donc, c'est une protéine qui stimule, si vous voulez, les neurones et qui assure ce qu'on appelle une plasticité cérébrale, c'est-à-dire que cette capacité à évoluer, cette capacité à régénérer. Donc, tout ça est important. Et on s'est aperçu que les oméga 3 à longue chaîne, qu'on trouve notamment dans la mer, eh bien, favoriser cette protéine, la sécrétion de cette protéine, ce qui est tout à fait essentiel. Donc, ces oméga 3 sont tout à fait indispensables, bien entendu, pour notre corps, d'où l'intérêt aussi des produits de la mer. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi, je veux dire, on prend des produits de la mer, et historiquement, on a pris des produits de la mer. Eh bien, il y a eu cette attirance, et probablement, dans les périodes de glaciation, il y avait moins d'alimentation sur Terre, et peut-être que les gens sont devenus intelligents quand ils ont commencé à prendre des produits de la mer. Enfin, là, c'est spéculatif, mais disons qu'on a quand même beaucoup d'arguments dans
Sabrina
ce sens-là pour les oméga 3.
Sabrina de Busca, en ligne de France Bleu à Toulouse. Alors, quand on écoute les diététiciens, les spécialistes de la nutrition, les études et recommandations en matière de lipides, tout ça paraît assez contradictoire.
On a du mal à s'y retrouver, effectivement, et parce que, comme Erwan Montéour le disait, on a des courants qui se suivent les uns les autres. Et du coup, aujourd'hui, on en arrive à dire qu'on doit avoir un apport en lipides global de environ, on va dire, 35, 30, 40% dans l'alimentation. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 80, aux États-Unis, on disait qu'il fallait en prendre moins. Mais surtout, comme l'expliquait le docteur Chevalier, c'est surtout la qualité des graisses qui est importante. Et à propos de ce que vous disiez à l'instant sur les effets sur le cerveau, il y a beaucoup de scientifiques, et notamment il y a le docteur Grimm dans son livre Le mensonge alimentaire, qui explique qu'il apparaît clairement maintenant que les graisses ont une importance fondamentale, et même que le cerveau de l'homme ne peut atteindre ses légendaires performances qu'après avoir reçu ses bonnes graisses en quantité suffisante. Je crois que c'est largement parlant. Et du coup, ces régimes alimentaires, la plupart d'entre nous sont perdus et associent la graisse tout court au fait de prendre du gras, ce qui n'est absolument pas vrai et pas prouvé.
Erwan Montéo.
Oui, alors là, je vais essayer de faire plaisir quand même à nos auditeurs, parce que ils sont en train de se dire, là, on peut plus rien manger, il faut pas manger de gras parce qu'on va prendre du gras, mais au contraire, les bons gras vont permettre de déstocker le gras. Chacune des cellules qui composent notre corps a une enveloppe.
Ça paraît paradoxal.
Ah oui, ça paraît paradoxal, mais en fait, ce qui vous permet de vous réorganiser au niveau immunitaire, ce qui permet de déstocker le gras, chacune des cellules qui composent votre corps est composée d'une cellule de gras. Ce gras, vous allez le trouver dans l'avocat, dans les oléagineux, enfin, le bon gras, les oméga 3 dont on parle, qui sont indispensable. Moi, je suis toujours effaré quand j'entends des nutritionnistes qui disent ne prenez pas trop d'oléagineux, ne mangez pas trop d'avocats. Moi, je mange 3 avocats par jour, je mange 5-6 fois par jour des oléagineux en ayant un fond nutritionnel pensé où on se concentre sur la qualité des apports et je ne prends pas de produits transformés et je ne mange pas de viande. Croyez-moi, j'ai pas de problème de santé.
Docteur Chevalier, vous vous sentez visé ?
Non, pas du tout. Je crois que, en fait, pour certains nutritionnistes, le fait de dire, l'explication pourquoi vous limitez un peu les oléagineux et parfois l'avocat, c'est pour les personnes qui sont en surpoids, en gros surpoids. Donc, on cherche à limiter un petit peu l'apport calorique. On sait
que c'est parce qu'ils mangent des produits transformés de merde à côté. S'ils mangeaient pas ça, ils pourraient manger ça sans aucun problème.
Non, mais bien entendu. De toute façon, le problème de l'avocat, c'est pas l'avocat lui-même. C'est ce qu'on met dans l'avocat. Donc si vous prenez avec de la mayonnaise, ça c'est une très mauvaise idée. Et les oléagineux, bien entendu, on souhaite que les gens en prennent beaucoup plus, et surtout des noix, des noisettes. Donc c'est ça qui compte.
Indispensable.
Sabrina Debusca, en ligne depuis Toulouse.
Oui, non, mais moi, voilà, vraiment, je pense qu'en fait, quand on regarde, du coup, pour préparer l'émission, Ali, moi, je me suis replongée un petit peu dans les recommandations concernant le gras, et c'est clairement contradictoire, et je pense qu'il faut vraiment comprendre cette différence entre le bon et le mauvais gras. Et par exemple, pour le cholestérol, on a beaucoup stigmatisé les œufs qui contiennent des oméga 3 et 6 pendant des années, et aujourd'hui, on est en train de revenir dessus. Donc, clairement, si on suit les plans national nutrition santé, on change de cap alimentaire, comme le disait Erwan, tous les 30 ans, voilà.
Non mais pour les œufs, on s'est aperçu que ça n'avait pas d'impact sur le cholestérol alimentaire tant qu'on reste sur des zones normales. C'est-à-dire 3 à 6 à 5 œufs par exemple par semaine, ça pose absolument pas de problème. Je voudrais juste rappeler que le cholestérol est indispensable aussi pour notre organisme. Il est indispensable pour la fabrication de la vitamine D, il est indispensable pour les hormones thyroïdiennes, et du cholestérol, vous en trouvez tout simplement dans l'enveloppe des cellules. Donc vous en avez besoin, il en faut pas trop bien entendu, mais vous en avez besoin.
Et Ron Montéo ?
Ouais, je voudrais juste ajouter quelque chose, et je vais encore une fois me mettre des médecins à dos, mais en dehors des nutritionnistes et des gens qui font de la recherche en nutrition, les médecins, généralistes, puis n'importe quel autre médecin, il fait 48 heures de nutrition dans sa formation. Et il suit les recommandations du plan nutrition santé. Or, on sait que les gens qui ont établi ce plan nutrition santé sont pleins de conflits d'intérêts et ont multiplié les grandes erreurs. Par exemple, en ce qui concerne les protéines animales, en disant qu'elles étaient indispensables, on sait désormais que non. Donc, ne vous fiez pas aux choses qu'on vous dit de manière dogmatique. Renseignez-vous, il y a de plus en plus d'informations pour être éclairé, notamment ici.
Mais ça ajoute à la confusion ce que vous dites, Herman Montéo.
Non, c'est pas, j'ajoute pas de la confusion. C'est-à-dire que si on ferme les yeux bêtement sur les dogmes qu'on nous rabâche aujourd'hui, par exemple en France, le plan nutrition santé nous dit qu'on a besoin de 900 mg de calcium par jour, alors que l'OMS nous dit 400 mg. On sait que Stéphane Le Foll est intervenu pour pas qu'il y ait l'étiquetage. On sait aujourd'hui pourquoi. Parce que il y a des bassins d'emploi en France, par exemple sur des grandes marques comme Danone, Nestlé, qui représentent l'industrie de l'élevage industriel, l'industrie laitière. Et c'est eux qu'on préserve et pas la santé des consommateurs.
Mais ce matin, on s'intéresse aux bienfaits du gras et nous attendons vos questions sur les graisses au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook. Une émission préparée par Alexia Rivière et Laure Grand Besançon, avec l'aide de Théo Denmat, et c'est réalisé par Claire Destacan. Today, we're gonna speak on the subject of lies. You know, when we think about lies, we think about cheaters, deceivers, con artists, anything in that vein. But the main thing that they have all in common is fear. Just think about it. Liar, liar, pants on fire.
Tricksters out there, we just wanna chill out with all that lying, you know what I mean? Because the truth will set you free, you know what I mean? We just gonna fade out.
Chinese Man interprété Liar.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h21 et au lendemain des ripailles de Noël, il est question ce matin des bienfaits du gras en compagnie du médecin nutritionniste Laurent Chevalier, de la journaliste Sabrina Debusca et du spécialiste en alimentation et bien-être Erwan Montéour.
Ça, c'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougue.
La fougue.
On va vous la servir à l'étaler, comme chez nous, hein. C'est-à-dire en l'étale sur le pain.
Merci.
Et c'est quoi qu'il y a dedans, là?
Ah, ben ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors, on fait macérer ça avec du gras.
Moi, j'ai petit, je venir un vrai montagnard.
Déchirant. On sent bien le goût du gras, hein, ça passe pas inaperçu.
Un extrait des bronzés font du ski de Patrice Lecomte. Alors, docteur Chevalier, rappelez-nous à quoi servent les lipides dans notre organisme et que se passerait-il si on bannissait totalement les lipides de notre alimentation?
Alors, les lipides sont absolument indispensables pour la cellule, pour la membrane de la cellule, pour les réactions qui se passent au niveau de la cellule. Le cerveau, c'est du gras. Quand vous mangez une cervelle, un d'agneau, par exemple,
vous maintenant, le fait moins.
Non, mais autrefois, on disait qu'il fallait en manger, il contenait du phosphore, tout un tas de choses. Donc, ça faisait partie l'huile de foie de morue aussi, enfin, toutes ces choses-là. Alors, en fait, bien entendu, ça servait pas à grand chose. On en trouve dans les substances végétales de façon intéressante. Donc tout ce gras, finalement, il est indispensable. Alors il y avait une réflexion qui était menée par rapport à ce gras et par rapport aux grands singes. En fait, les grands singes, ils ont un tube digestif qui est très long. Ils sont végétariens stricts. Ils cuisent pas les aliments et ils passent leur temps, en fait, à dépenser leur énergie pour métaboliser ces aliments crus et végétaux. Ce qui fait que en fait, ils ont plus beaucoup d'énergie pour grand chose d'autre, hein, finalement, pas énormément. Et ces grands singes, si
sauf
vous voulez,
sauf s'ils se mettent en colère, hein.
Sauf s'ils se mettent en colère, hein, bien sûr, ils ont quand même la force musculaire aussi. Mais ce que vous n'avez pas de grands singes qui deviennent obèses dans les zoos, par exemple. Et tout d'un coup, chez l'homme, le tube digestif se rétrécit. On lui donne du gras et un peu de sucre. Il lui reste de l'énergie, il cuit les aliments. Et on estime que cette énergie qui reste, eh bien, a servi au développement du cerveau.
Absolument.
Et actuellement, 20% de l'énergie, enfin, de l'énergie qu'on prend à travers les aliments, servent pour le cerveau. Donc, finalement, c'est tout à fait intéressant. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est cette surabondance de gras, cette surabondance de sucre qui nous pose des problèmes. Concernant le plan Nutrition Nationale Santé, dont Erwan a parlé un petit peu tout à l'heure, je voudrais un tout petit peu nuancer. Je suis tout à fait d'accord qu'il a énormément de limites, et notamment pas la prise en compte de tous ces additifs alimentaires, de toute cette chimie qui a été mise dans l'alimentation. Mais si vous voulez, c'était un petit peu une base qui doit évoluer. Et c'est normal que les processus évoluent un peu. Moi, je me souviens très bien que, effectivement, quand on nous a appris la nutrition, c'était moitié de protéines animales, moitié de protéines végétales. C'était le dogme. Le dogme, il perdure dans les documents actuellement. Alors que, bien entendu, et ce qu'on avait déjà expliqué ici avec Claude Aubert, c'est que un tiers de protéines d'origine animale et deux tiers d'origine végétale, c'est beaucoup plus pertinent sur le plan physiologique. Donc les recommandations vont évoluer. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les recommandations nutritionnelles, au-delà des effets de mode, évolue aussi un peu en fonction des études scientifiques qui sont faites. Donc je suis un peu moins radical que Erwan. Quant à la formation des médecins, il a tout à fait raison. C'est tout à fait insuffisant vu l'importance de la nutrition dans les études. Mais le problème, c'est qu'on demande aux médecins généralistes de tout savoir sur tout. Donc ceux qui s'occupent de microbiologie vont dire « Ah, il n'a pas une formation suffisante sur les bactéries et les virus. » Quand on s'occupe de nutrition, on dit « il n'a pas une formation suffisante là-dessus ». Donc, bien entendu, c'est un problème, mais c'est tout à fait exact qu'il a une... Disons qu'actuellement, il y a insuffisamment d'éléments, enfin d'heures d'études sur la nutrition pour les médecins.
Ça, c'est certain.
Oui, alors de toute façon, on est obligé d'avoir des institutions qui guident un petit peu pour qu'il y ait une politique volontariste de prévention qui, à mon avis, fait grandement défaut en France. Ce que j'ai du mal à entendre, c'est quand on me parle d'études aujourd'hui, c'est que les études sont financées par l'industrie.
Pas toutes.
La plupart, en tout cas celles qui font autorité dans le plan nutrition santé. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce qui s'est passé grâce aux cigarettiers, puisque tous ces communicants, tous ces lobbyistes de la cigarette sont arrivés dans l'industrie agroalimentaire depuis la fin des années 70, et ils aiment bien utiliser la science pour créer de l'ignorance et reculer la progression du savoir. C'est-à-dire qu'on met 20 ans à découvrir qu'un additif est cancérigène, on va mettre 20 ans à découvrir que peut-être que le cholestérol n'était finalement pas lié aux maladies cardiovasculaires. Donc la science... Oui, quand les gens sont indépendants. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème d'indépendance au niveau de la science. Et il y a beaucoup de médecins qui font autorité, qui viennent parler. Et je pense à plein de médecins qui sont des grands médecins de la nutrition et qui, en fait, ont tellement de conflits d'intérêts qu'on ne devrait même pas leur donner la parole.
Bonjour Jeanne.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Marseille. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse.
Merci beaucoup. Voilà, je vous appelle parce que, bon, je suis un régime... Pas vraiment un régime, c'est-à-dire que nous faisons très attention à ce que nous mangeons, c'est-à-dire bon, peu de viande, beaucoup de poissons, de bons poissons, des acides gras, huile d'olive, pas de beurre, beaucoup de soupe de légumes, beaucoup de fruits, peu de viande.
Et pourtant,
un taux de cholestérol défiant toute concurrence, quoi. Voilà, donc, et le taux de cholestérol monte, tout le temps, malgré le fait que d'année en année, je fais de plus en plus attention à ce que l'on mange.
Docteur Chevalier.
Alors, il faut voir qu'il y a des facteurs génétiques qui rentrent en jeu. Et l'essentiel de la production de cholestérol d'origine sanguine n'est pas d'origine alimentaire, mais d'origine endogène, ce qu'on avait dit au début de l'émission. Autrement dit, on fabrique son cholestérol et il faut à ce moment-là voir ce qu'il est possible de faire en termes de traitement. On a des statines qui sont parfois utilisées, donc qui ont aussi beaucoup de limites dans leur utilisation. Dans la levure de riz rouge, on a des plantes aussi comme le chrysanthellum, la palure, qui peuvent être intéressantes. Donc on peut tout à fait commencer par ça et ensuite voir un petit peu ce qui se passe avec des contrôles médicaux réguliers. Ce qui est sûr que malgré tout, concernant le cholestérol, il faut pas en avoir trop dans le sang. Encore qu'il faille, il faut bien différencier le bon et le mauvais cholestérol et qui a tendance à être quand même hétérogène. Après ça, concernant juste un tout petit mot concernant les études, je rejoins tout à fait Erwan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une démission des pouvoirs publics. Donc bien entendu, il y a des études qui font autorité. Et là, j'ai des amis, beaucoup d'amis à l'INSERM, et certains m'expliquent qu'ils n'ont des subventions publiques que si les industriels ont déjà commencé à subventionner.
Oui, c'est ça le problème.
Or, en fait, les industriels, d'une certaine manière, ils vont orienter un petit peu les études. C'est pas qu'elles soient mal faites, mais elles sont orientées, et ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et c'est vrai que, je veux dire, je rejoins aussi Erwan par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a un message nutritionnel qui est brouillé à cause des conflits d'intérêts. Donc la première chose qu'on devrait faire, vous l'avez déjà demandé à moi précédemment, est-ce que j'ai des conflits d'intérêts? Et donc non, j'en ai pas. Et c'est la première chose que l'on doit faire, c'est ça, se demander à l'intervenant s'il a des conflits d'intérêts.
Mais je n'arrive pas à vous le demander quand vous venez, Laurent Chabanier.
et je le vois même parfois dans les journaux médicaux qui assurent la formation. Eh bien, il y a des conflits d'intérêts cachés. Moi, je préfère un médecin de chez Danone qui explique le point de vue de Danone sur le plan nutritionnel plutôt qu'un confrère qui arrive caché, crypto, et qui, par derrière, par différents biais, peut recevoir soit de l'argent, soit différents types d'aides. Donc ça, c'est un vrai problème, ça, c'est certain.
Erwan Montéo, revenons à la situation de Jeanne, hein, qui mange plutôt bien, hein, de l'huile d'olive, des oléagineux. Bon, et pourtant, voilà.
Alors,
elle doit continuer.
Alors d'abord, on vient de parler de quelque chose. Il y a forcément un facteur génétique. Le fond nutritionnel, c'est une chose. C'est le matériel qui va vous permettre de vous défendre d'un point de vue immunitaire, à construire votre corps. Mais il y a un autre facteur prépondérant dans un paradigme de santé, c'est d'avoir une activité physique régulière. Et le sport, à raison de 3 fois par semaine, 1 jour sur 2, qui dépasse 45 minutes, peut intervenir sur une sérieuse réduction du taux de cholestérol s'il est associé à un fond nutritionnel.
Jeanne, vous pratiquez un peu de sport ? Jeanne ?
Ah, oui, j'ai acheté un vélo récemment, un vélo d'appartement. Voilà, je fais 20-25 minutes tous les jours. Mais de toute façon, nous sommes en centre-ville, donc tout ce que je fais en centre-ville, je le fais à pied. C'est-à-dire qu'aller dans un musée, ça va être 30-35 minutes à pied, 40 minutes. Faire le retour aussi, on marche beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et remontez où ? Ouais,
alors, moi, je vais vous répondre quelque chose. Je fais de la préparation physique, ça fait des années que je m'occupe de gens et j'ai été confronté à des gens qui avaient 30, 50, 100 kilos de trop à qui j'ai fait perdre du poids. En ce qui concerne le cholestérol, c'est quelque chose d'assez subtil. C'est vrai que le fond nutritionnel va intervenir, qu'il y a un certain nombre de produits, comme l'a évoqué tout à l'heure Laurent, qui peuvent réduire significativement ce taux-là. Mais le sport régulier et avec un petit peu d'intervalle, c'est-à-dire c'est pas seulement de l'endurance fondamentale, mais c'est aussi des intervalles qui vont vous faire monter dans les tours cardiaquement, qui vont vous permettre de réguler ce taux.
Sabrina de Busca, depuis France Bleu Toulouse, vous avez peut-être envie de réagir à ce qui se dit.
Oui, moi j'ai juste envie de vous citer le docteur Kevin Hall, qui est un chercheur sur le métabolisme à l'Institut National du Diabète et des Maladies Digestives aux États-Unis, qui dit « Le meilleur régime alimentaire, c'est celui qu'on peut tenir dans le temps. » Donc, hormis toutes ces recommandations qu'on nous fait, moi je pense avant tout, puisque je suis journaliste au contact du public et blogueuse, j'ai énormément de gens qui m'écrivent tous les jours, qui me demandent des conseils sur ce genre de thématique, et Erwan doit bien connaître ça. Je pense que voilà, il faut vraiment ne pas essayer de tout le temps calculer, apprendre à s'écouter, à revenir à des très bonnes choses. Le régime santé par excellence, on le connaît depuis très longtemps, il y a plein de régions qui le connaissent très bien, et je pense surtout qu'il faut arrêter de se prendre la tête et garder en tête quelques généralités, mais quand on est déjà en bonne santé, ne pas non plus chercher sans arrêt à tout calculer. Je pense que ça, c'est plus néfaste qu'autre chose.
Merci beaucoup, Jeanne, de nous avoir appelé de Marseille.
Oui, voilà. Pronto, oui.
Pronto, Thibaut de Saint-Maurice, bonjour.
Bonjour, Ali.
Ça va ?
Ben, ça va.
Vous
ça
êtes
va,
le prof de philo.
Comme après un week-end de Noël.
Vous êtes le prof.
Manqué, hein.
Vous êtes le prof de philo de Grand Bien Vous Fasse. Vous êtes en vacances dans une terre qui célèbre le gras avec panache, avec génie, l'Aveyron. Bon, votre réflexion, Thibaut de Saint-Maurice, sur le gras.
Ben, c'est vrai que après un week-end de Noël où on enchaîne 2, 3, 4 repas avec, dans l'Aveyron en tout cas, du foie gras, du canard, moi j'ai mangé une noix au four qui a rendu tout son jus, tout son gras pendant 3 heures. C'est vrai qu'on est un peu saturé de gras et qu'on se demande au bout d'un moment pourquoi est-ce qu'on mange si gras pendant ces fêtes. Et je crois que précisément la réponse est dans la question, c'est-à-dire parce qu'en fond c'est festif de manger du gras. Alors c'est pas le gras en lui-même qui est festif, mais ce qui est festif, et la fête elle a besoin un peu d'excès, elle a besoin de s'affranchir de quelques limites, de quelques règles du raisonnable. Manger trop les jours de fête, eh bien ça participe de la fête parce que c'est une façon de relâcher un peu son attention, c'est une façon de sortir un peu des cadres.
Et le gras dépasse, en tout cas pendant ces périodes de ripaille, strictement le cadre alimentaire.
Oui, c'est vrai que c'est aussi une façon de s'articuler à tout un imaginaire ou à tout un culture, à toute une culture de la fête. Alors ça renvoie à des choses un peu profondes, un peu anciennes. Pensez à Rabelais, par exemple, à la façon dont il parle dans ses écrits, quand il présente ses personnages de Pantagruel, de Gargantua. À cette époque, on est au début du XVIe, mais le gros, le gras, le trop, ce sont des signes de bonne santé, de plaisir que l'on prend à table. Et dans ce cas-là, c'est intéressant parce que c'est un gros, un gras qui n'est pas du tout culpabilisé, mais qui, au contraire, est une sorte d'indice de la capacité à prendre plaisir à ce que l'on mange et prendre plaisir finalement simplement à exister et à partager ce que l'on mange.
Laurent Chevalier.
Oui, je crois que c'est surtout effectivement un signe de richesse plus qu'autre chose, plus qu'un signe de bonne santé.
D'ailleurs, on mange plus de l'obésité que de la faim aujourd'hui.
Oui. Alors après, ce qui est très intéressant, c'est que physiologiquement, l'homme, il est tout à fait capable de manger trop à certaines périodes sans que ça ait de conséquences. Et de la même manière, à l'inverse, il est tout à fait capable de supporter des périodes de disette. Et donc ça, c'était un petit peu une surprise. Et c'est vrai que le message, c'était de dire de manger de façon régulière à peu près le nombre de calories identique quotidiennement. Et en fait, pas du tout. L'histoire de l'humanité, c'est ça. L'histoire de l'humanité, c'était des fêtes. Alors, c'était aussi des festins de l'Eucharistie. Ensuite, c'est les festins républicains, etc. Donc, ça a toujours existé. Et sur le plan physiologique, ça n'avait pas de conséquences particulières. Par contre, il ne faut pas le faire, évidemment, trop souvent.
Alors, Thibaut de Saint-Maurice est dans le sud-ouest, dans l'Aveyron. Question par mail. Pourquoi les habitants du sud-ouest de la France, a priori amateurs d'acides gras saturés, comme le foie gras, ont-ils une bonne espérance de vie en comparaison de la moyenne française?
Alors, ça, c'était la fameuse étude dite Monica, où on montrait effectivement que les gens du sud-ouest avaient une espérance de vie plus importante. Pour une raison très simple, Ali. C'est qu'ils consomment tout simplement beaucoup plus de fruits et de légumes que la moyenne de la population. Et notamment dans le nord de la France, où on était plus sur de la pomme de terre, beaucoup de gras, du lardon, des choses comme ça. Donc effectivement, on mange du canard, on mange de temps en temps un petit peu de foie gras, mais le canard, vous savez, prenez de l'aiguillette de canard, c'est une viande maigre, donc ça pose pas de problème. Mais toute cette étude, l'étude Monica, donc vous faites référence, eh bien c'est tout simplement beaucoup plus de fruits et de légumes.
Et remontez où?
Bah écoutez, moi je vais juste faire une conclusion, parce que notre amie tout à l'heure qui était en duplex avec nous m'a dit quelque chose, et je suis pas du tout d'accord avec elle. Jean-Michel Cohen a beaucoup utilisé ces dernières années le terme orthorexique. C'est-à-dire, c'est quand on devient un peu malade de ce qu'on mange et qu'on fait attention à tout ce qu'on mange. Nous baignons dans un environnement toxique sans précédent, tant d'un point de vue alimentaire qu'environnemental. Ne pas avoir une conscience excessive et ne pas prendre un soin excessif de ce que l'on est en train de manger et des pollutions auxquelles on s'expose est en train de nous préparer un avenir noir. Je vous rappelle qu'en 2030, un homme sur deux en France sera stérile. Ce sont les enfants qu'on est en train de faire grandir maintenant.
Quelles études ?
C'est des études qui sont passées dans le monde, qui sont dans mon prochain livre qui s'appelle « Si on arrêtait d'empoisonner nos enfants » qui sort le 26 janvier.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart, enfin, nous, notre rôle comme médecin nutritionniste aujourd'hui, c'est de faire des rééquilibrages alimentaires. On voit des gens qui ont une alimentation industrielle, une alimentation totalement déséquilibrée. Il faut faire ce rééquilibrage alimentaire. Et par exemple, à l'hôpital, je m'occupe beaucoup des maladies auto-immunes et la nutrition pour les maladies dites auto-immunes. C'est-à-dire, vous faites des anticorps contre votre propre corps. Il y a 15 ans, j'expliquais des orientations en fonction des aliments. Aujourd'hui, depuis à peu près 4 ans, je fais plus que du rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que les gens vont prendre les mauvaises informations, malheureusement aussi sur le net ou sur des choses comme ça. Et donc, on est obligé de leur réexpliquer ce que c'est qu'une alimentation qui doit être effectivement saine, éviter les produits industriels, quel type d'additifs il faut éviter, etc., etc. Limiter certains gras et certains sucres, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel.
Merci Thibaut de Saint-Maurice. On vous retrouve exceptionnellement mercredi dans l'émission. Et n'abusez pas trop du foie gras, cher Thibaut.
Merci à vous.
Allez, on attend vos questions sur les graisses lipides au 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook. Bal de Bamako, bal de Bamako, bal de Bamako. J'étais dans la. Comme un vertige sur la ville, moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise. Voir danser m'électrise.
peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mal des merveilles, le mal idieux crée la flamme. Le mal y danse dans mon âme. On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Et Oxmo Puccino.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h41 et au lendemain des ripailles de Noël, il est question ce matin des bienfaits du gras en compagnie du médecin nutritionniste Laurent Chevalier, de la journaliste Sabrina Debusca et du spécialiste en alimentation et bien-être Erwan Montéour.
Hier, j'ai fait des artichauts à la sauce hollandaise, qui est du beurre fondu fouetté jusqu'à l'extase avec des jaunes d'œufs, pour qu'ils meurent et montent au paradis. Franchement, y a-t-il une chose meilleure que le beurre? Pensez-y. Chaque fois qu'un plat est délicieux au-delà de l'imaginable et que vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» La réponse est forcément du beurre.
C'est incroyable.
Voici ma conclusion sur le sujet. On ne met jamais trop de beurre.
Un extrait de Julien et Julia de Nora Ephron en 2009. Docteur Laurent Chevalier, le beurre est-il bon pour la santé? Dans l'imaginaire populaire, le beurre bouche les artères et contribuerait fortement aux maladies cardiovasculaires. C'est une idée reçue?
Non, mais après ça, c'est un problème de proportion. Après ça, le beurre, il faut surtout pas le chauffer. Puisque le point critique, si vous voulez, est très bas par rapport à l'huile d'olive. Donc on ne chauffe pas le beurre, vous savez, cette fumée noirâtre qui peut apparaître et qui est tout à fait toxique.
Le beurre noisette.
Donc,
faut l'associer à l'huile d'olive.
Il faut limiter. Après ça, tous les acides gras qui, saturés qui sont dans le beurre sont pas forcément tous négatifs. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on est complètement ahuri de ce qui se passe. On essaye de nous remplacer le beurre par de l'huile de palme. On essaye de nous mettre tout un tas de produits que finalement, dans notre assiette, on n'avait pas autrefois. Qu'est-ce qu'on essaye de nous mettre dans notre assiette en termes de gras? Des acides gras trans. Qu'est-ce que sont les acides gras trans? Ce sont des huiles qui sont transformées par voie industrielle et qui sont très hétérogènes, c'est-à-dire qui sont pas bonnes pour le plan cardiovasculaire. On essaye de, du coup, on dit, ah oui, bon, d'accord, effectivement, c'est pas très bon. Je vous remarque que les pouvoirs publics n'ont jamais légiféré sur les acides gras trans, ce qui est absolument inimaginable au niveau européen. Et du coup, on nous met de l'huile de palme. Et on disait, si vous voulez pas l'huile de palme, on peut revenir aux acides gras trans. Mais l'huile de palme, eh bien, on n'en veut pas non plus. Je veux dire, l'huile de palme, quand on en prend en excès, alors c'est l'excès qui pose problème. Mais ça peut favoriser le diabète par ce qu'on appelle des phénomènes d'insulin résistance. Ça peut favoriser l'inflammation. Ça peut favoriser des choses comme ça. Donc, il faut limiter l'usage de l'huile de palme. L'huile de palme, aujourd'hui, c'est un enjeu politique et diplomatique. C'est pas un enjeu de santé.
Et environnemental également.
Et environnemental, bien entendu. Colossal. Alors que là, justement, pourquoi on a abandonné le beurre pour l'huile de palme? On peut revenir parfois, tout simplement, à un petit peu de beurre. Prendre 10 grammes de beurre par jour, par exemple, est tout à fait légitime. Ça veut dire 5 grammes le matin sur sa tartine. Et ça veut dire 5 grammes, eh bien, dans des légumes qu'on a pu cuire et on veut rajouter une petite matière grasse. 10 grammes, c'est l'équivalent des petites plaquettes de beurre restaurant. Et ça, c'est tout à fait justifié.
Et le journaliste Frédéric Danhé nous envoie un message, il nous dit « Le gras, ça porte les saveurs, ça fait des poignées d'amour, des voix qui portent, c'est rond et c'est beau, ça rassure et ça protège du froid et de la listeria. » Aaron Montéo.
Je voulais juste vous dire, attirer votre attention sur quelque chose. Notre alimentation, elle a plus changé en 70 ans qu'en 3 millions d'années. Or, on a le même patrimoine génétique que notre ancêtre préhistorique. Donc, si on essayait juste de se rapprocher un petit peu, en vivant dans notre temps, c'est pas parce qu'on va faire une récréation, qu'on va aller au restaurant, même si c'est des produits transformés, qu'on va picoler un peu, qu'on va festoyer, que ça va poser problème. C'est l'histoire du fond nutritionnel, ce à quoi on s'expose, parce que c'est l'exposition qui fait le poison. Essayez d'avoir du bon sens lorsque vous appréhendez votre alimentation.
Docteur Alors, Chevalier.
Juste pour, peut-être pas 3 millions d'années, mais ce qui est sûr, c'est que on a la même chose, on a à peu près le même patrimoine qu'au Mésolithique. Il y a moins 10 000 ans. Et donc, c'est la période où tout d'un coup, tout se met à basculer quand on passe au néolithique. Et au néolithique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence par l'élevage des animaux,
l'agriculture.
C'est là que les problèmes, les céréales à outrance, etc. Et donc, on a ce basculement où tout d'un coup, on a développement aussi de maladies infectieuses, on est plus proche des animaux, etc. etc. Donc, on a une espèce de basculement néolithique. Donc, par rapport à il y a moins 10 000 ans, effectivement, on est à peu près les mêmes gènes. D'où l'intérêt d'avoir, je dirais, une alimentation entre guillemets de type paléolithique adaptée au 21e siècle.
Complètement.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. En plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le gras, par exemple comme le saindoux, c'est pas que des acides gras saturés. C'est aussi tous les polluants qui sont dits lipophiles, c'est-à-dire qui vont dans le gras. C'est-à-dire la dioxine, les PCB, les polybromés, donc les produits anti-feu qu'on va retrouver. On absorbe ces substances-là qui ensuite vont rester dans notre gras. Et ensuite, on est étonné d'avoir un certain nombre de maladies qui apparaissent, une explosion du nombre de cancers, puisqu'on a quand même, chaque jour, en France, on détecte 1000 nouveaux cas de cancer par an. Donc il faut faire une vraie politique de prévention par rapport à ça, c'est certain.
Sabrina de Busquin, en ligne de Toulouse, on ne vous a pas oublié, mais vous n'êtes pas avec nous physiquement, donc je ne sais pas si vous avez envie de réagir ou pas.
Oui, absolument, et notamment à ce que vous disiez à l'instant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui se dit, et pour rebondir sur ce que disait Erwan tout à l'heure, ma pensée a été exprimée de manière assez rapide, elle est bien plus nuancée que ça et je suis, Erwan, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je veux simplement préciser. Voilà. Non, mais je veux juste préciser parce qu'on oublie souvent de le dire et que, voilà, comme vous, Erwan, je suis beaucoup au contact du public et je pense aux gens qui viennent tous les jours m'écrire et qui me disent, moi, toutes ces injonctions, toutes ces, je n'en peux plus. Alors, malheureusement, effectivement, face à la malbouffe, on a un contre-courant, comme vous l'expliquiez, d'orthorexie, donc de trop bonne bouffe où on veut trop maîtriser ce qu'on mange qui est actuellement présent. Mais la plupart des gens, j'aimerais leur dire, s'ils nous écoutent aujourd'hui, que l'alimentation santé, elle peut rimer avec simplicité.
Et plaisir.
On n'est pas, voilà, et qu'on peut éviter la plupart des mauvais aliments via des principes très simples. Pour moi, il y en a trois, c'est manger des produits bruts, les préparer soi-même, manger bio pour éviter les pesticides, etc., bio ou agriculture raisonnée selon vos moyens et vos envies, éviter le transformer à l'industriel. Ensuite, continuer sur une alimentation telle que vous le disiez, Erwan, qu'on pouvait avoir il y a 70 ans, qui est l'alimentation de gens qu'on peut encore côtoyer aujourd'hui. On peut les questionner. Ils s'appellent nos grands-parents à tous. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment, on n'est pas obligé d'avoir une méthode, un régime particulier. Parce que moi, ce que je vois tous les jours, c'est que j'ai des gens sur mon blog qui viennent me dire, voilà, j'ai 10, 15 ans de parcours. Je suis allée voir des grands spécialistes, des diététiciens, des nutritionnistes. On m'a donné plein de belles méthodes. Mais moi, concrètement, au quotidien, je n'arrive pas à les mettre en place. Et ces gens-là, du coup, font une réaction à tout ça, et se disent c'est trop compliqué pour moi l'alimentation santé, donc je laisse tomber, je continue avec mon alimentation de supermarché. Moi, je voudrais dire à tout le monde, vous pouvez bien manger, c'est simple, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 en nutrition pour bien manger, il faut juste revenir aux sources.
Allez, Véronique Marmet nous demande une liste des bons gras. Quels sont les aliments riches en lipides que vous recommandez de manger en priorité, docteur Chevalier?
Alors, c'est ceux qui contiennent des acides gras, donc oméga-3.
Les noix, les avocats.
Voilà. Alors, en fait, il y a les produits marins qui contiennent des acides gras oméga
3 à longue chaîne. Lesquels? Parce qu'il y a une question également. Lesquels? Quels produits marins?
Eh bien, les sardines, le maquereau, le saumon.
Le poisson de début de chaîne.
Donc tous ces petits poissons-là, le flétan aussi, les anchois, contiennent ces acides gras oméga 3 à longue chaîne. Après, il y a la possibilité de prendre de l'huile de noix, de l'huile de colza, tous ces produits-là, qui en plus sont intéressants pour une deuxième raison, c'est qu'ils contiennent ce qu'on appelle des stérols végétaux. Et ces stérols végétaux limitent l'absorption du cholestérol d'origine alimentaire au niveau de l'intestin. Ça se met au niveau des récepteurs et ça limite l'absorption des cholestérols d'origine alimentaire, du gras animal aérien. Donc ces produits-là sont tout à fait intéressants. Après ça, ce qu'il faut voir, c'est que le rendement pour avoir les bons oméga-3, parce qu'il y a plusieurs types d'oméga-3, est beaucoup plus faible avec l'huile de noix, l'huile de colza, qu'avec les produits d'origine marine.
Et remontez-vous, les aliments riches en lipides que vous recommandez en priorité?
Oh bon, moi, par exemple, le matin, je recommande tout le temps de prendre un avocat, une poignée d'oléagineux, prendre des oléagineux, des noix, des noisettes à 10h et 16h avec un fruit de saison. Déjà, vous n'allez pas vous vautrer sur le prochain repas parce que plus vous laissez de temps entre deux repas, plus vous allez avoir faim au repas qui suit et vous allez manger des conneries en début de repas. Juste une petite précision avant, je vous embête plus. Je sais que parfois je suis un petit peu anxiogène, mais quand je vous parle d'environnement...
Vous aimez les digressions, Erwan Montéo.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est parce que c'est pas une digression. C'est que on vit dans un monde qui nous rend malade. Je voudrais juste attirer votre attention. J'ai écrit un livre là qui va bientôt sortir. Je vais vous en parler fin janvier. Depuis 30 ans, les cancers chez les enfants ont augmenté tous les ans de 1,1%, malgré les progrès de la médecine. Et s'il y a des cancers comme ça chez les enfants, croyez-moi, c'est à cause de cet environnement toxique. Donc soyons quand même très vigilants sur ce à quoi nous les exposons d'un point de vue alimentaire.
Docteur non, Chevalier. Mais ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est ce qu'on développe de plus en plus. On nous dit l'espérance de vie augmente. Mais elle augmente parce qu'on a fait des progrès sur le plan infectiologique, etc. Mais le problème des cancers des enfants, c'est absolument dramatique et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est à cause des polluants, de certains polluants qu'on va trouver dans certains gras, d'où l'importance de bien les choisir.
Allez, nous attendons vos questions sur le gras 01 45 24 7000 et par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that. Megan Trainor sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse encore quelques minutes aux bienfaits du gras en compagnie du médecin nutritionniste Laurent Chevalier, de la journaliste santé Sabrina Debusca et du spécialiste en alimentation et bien-être Erwan Montéour.
Dites-donc, garçon, est-ce que le chou farci est à température?
Voilà, monsieur.
Très bien.
Vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes?
Oui.
Mais non.
Vous me donnerez la crème fraîche avec mon chou farci.
Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça.
Si.
Mais à votre âge, ça peut être dangereux.
Mais j'ai toujours vécu dangereusement.
Moi, des chou farcis, je ne ferais même pas une bouchée, moi.
Mais parce que vous savez pas manger.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse, et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, monsieur.
Donnez-moi des chou farcis.
Ah!
Un extrait du tatouage de Denis de la Patelière en 1968. Alors je ne suis pas sûr que le régime tripe, chou farci, crème fraîche soit le meilleur moyen de devenir centenaire. Sabrina Debusca, quand on observe les régimes alimentaires des centenaires, la part faite aux graisses est assez importante, hein, qu'il s'agisse du régime Okinawa, du régime crétois ou du régime nordique.
Et surtout la part faite aux bonnes graisses en fait, parce que par exemple le régime Okinawa, il est dit faible en matière grasse, bon, quand même moins de 35% de matière grasse, les recommandations, on le disait tout à l'heure, étaient entre 30-40%, mais parmi ces gras, il y a uniquement les acides gras essentiels, donc les 3 et les 6. Donc par exemple, régime Okinawa, c'est 1 à 3 portions de poisson par jour. C'est beaucoup de fruits de mer, des noix, des graines. Le régime crétois, c'est beaucoup d'huile d'olive, de noix, de poisson, donc oméga 9, 6 et 3. Régime nordique en Suède, Norvège, Finlande, Danemark, c'est quand même ce qui compte parmi les populations ayant les plus grandes espérances de vie. Ils sont à 87 ans et nous, on est à 82,7. Eux, c'est beaucoup de poisson de mer, d'huile de colza. Et le régime caucasien également, on a la vallée des centenaires.
C'est quoi ?
Alors, le régime caucasien, c'est au Pakistan, c'est sur les montagnes du Caucase. Alors, eux, tenez-vous bien, Ali, le record là-bas, c'est 168 ans. Ça fait rêver, hein ? Et avec absence totale de soins médicaux, quand même.
Faudra vérifier, quand même. Faudra vérifier.
Les registres, sont peut-être pas à jour.
Docteur Laurent Chevalier. Oui, allez-y, pardon.
Eux, c'est pas de poisson, beaucoup de noix, de yaourt et un beurre à base de graisse d'agneau. Ils ont leur plat principal qui est fait à base des noix, les mêmes noix qu'on trouve en Europe. Voilà.
Docteur Laurent Chevalier, le régime de Jean Gabin dans le tatoué à base de tripes, de crème fraîche, ça favorise les maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a un consensus scientifique sur la relation entre l'excès d'acide gras saturé et la survenue de maladies cardiovasculaires?
Alors, les fondamentaux, là, n'ont pas bougé. C'est-à-dire que l'excès d'acide gras saturé favorise les maladies cardiovasculaires, ça c'est certain. En fait, maintenant on apporte des nuances pour ces acides gras saturés. C'est-à-dire que certains acides gras saturés pourraient être considérés à terme comme aussi protecteurs et voire essentiels. Donc on nuance beaucoup, vous savez, parmi les acides gras saturés, acides arachidoniques, butyriques, etc., il y en a beaucoup. Donc on nuance le propos par rapport à ça, mais ce qui est sûr, c'est que l'excès d'acides gras saturés, donc je veux dire, a été démontré comme augmentant le cholestérol d'origine alimentaire, donc il faut faire attention à ça. Après ça, il y a un intérêt aussi à prendre de l'huile d'olive ou des choses comme ça, des régimes à base d'huile d'olive. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'un peu de gras tous les jours. Et si, de façon indirecte, si vous prenez de l'huile d'olive, indirectement, vous limitez l'apport en d'autres types d'acides gras qui sont nocifs. Après, sur le poisson, trois portions de poisson gras par jour, ça peut, enfin par semaine, il faut le nuancer un petit peu puisqu'on a des zones qui sont polluées, donc on attend une cartographie des zones
par
polluées.
Par exemple, la Norvège.
Voilà, donc on attend une cartographie pour mieux affiner le conseil nutritionnel. Ce qui est sûr, en 30 secondes, c'est que l'histoire de dire on peut manger un peu tout et finalement ça pose pas de problème, ça c'est un message de l'industrie, pas du tout. Il faut fortement faire attention à son alimentation, comme on l'a dit et comme l'a répété encore Sabrina juste à l'instant, et c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel, on fait pas n'importe quoi.
Erwan Théour, j'ai pas le temps de vous poser la question, vous êtes entraîneur sportif, est-ce que vous recommandez de manger moins gras quand on souhaite perdre du poids? Réponse rapide.
Ben manger du bon gras et éviter tous les gras trans. Juste avant de vous quitter, je voudrais remercier ma collègue Julie Ferrez, l'excellente coach, parce qu'elle m'a donné des recommandations hier soir, elle m'a fait faire un petit cocktail qui m'a permis d'être parmi vous, alors je lui fais un gros bisou, je la remercie.
Merci. Laurent Chevalier, un mot de conclusion sur la relation entre quand on a envie de maigrir, est-ce qu'on est obligé de réduire le gras de façon drastique?
Non, non. Il faut, encore une fois, tout ce qu'on a expliqué lors de cette émission, mieux le choisir. Et limiter l'apport en sucre ajouté.
Surtout en sucre. Ouais.
Donc, on peut prendre des fruits, bien entendu, qui apportent des vitamines, des choses comme ça, des fibres, mais on limite tout ce qui est sucre ajouté. Et on a une alimentation la moins industrielle possible.
Et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ainsi que l'OMS, affirme que l'association entre une alimentation trop grasse et l'excès de poids n'est pas démontrée. Merci beaucoup, Erwan Montéour, parmi vos ouvrages parus, l'alimentation Fit Next chez Solar. Merci, Sabrina Debusca. Je recommande votre blog Santé, ça se saurait. Et votre ouvrage Métro Bistrot Boulot Bonheur. Merci aux équipes de France Bleu à Toulouse. Et merci également Laurent Chevalier. Dernier ouvrage paru, Le Guide du Bon Sans Toxique. À la technique ce matin, Julien Michel et Stéphane Boja. Demain, nous continuons à célébrer le gras en évoquant les repas de fête avec les historiens Michel Barrière et Florent Quélier.
Voilà, la nouvelle cuisine, elle peut aller se faire cuire un œuf. Tu vas te rendre malade avec tes régimes à la con.